tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, il fait son bilan de faillite à la fois collective et personnelle. Un demi-siècle de combat pour une révolution sans fond. Qu'en reste-t-il? Croire en qui et croire en quoi? Le philosophe Régis Debray nous rejoindra après le journal de midi et demi pour en parler. Mais d'abord, un cinéma de la dignité, un cinéma qui réchauffe, qui enivre et qui transporte. La Cinémathèque de Toulouse consacre au Finlandais Akikoris Maki ce veilleur de nuit, une rétrospective jusqu'à la fin du mois. L'occasion de revenir sur son cinéma avec André Wilms, son complice français, acteur et metteur en scène. Il était récemment dans nos murs pour une lecture de La Grue du Japon de Fabrice Melchior aux côtés de Charlotte Rampling. Aujourd'hui, de l'autre côté du miroir, André Wilms est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Des fables un peu comiques, des contes de fées désespérés, une poésie burlesque, le réalisateur de L'Homme sans passé ou encore L'autre côté de l'espoir, ce cinéaste plein d'humanité est le sujet d'une rétrospective à la Cinémathèque de Toulouse. Ensemble, ils ont tourné quatre films. La vie de Bohème en 92, les Leningrad Cowboys rencontrent Moïse en 94, Jua en 99 et Le Havre en 2011. Dans le désordre, ça donne ça.
Cher monsieur Bernard, la politesse me contraint à vous faire part de cette situation fort malheureuse dans laquelle je me trouve, qui fait que cette fois-ci je ne peux pas respecter l'usage selon lequel le loyer est exigé, surtout si on le doit. Jusqu'à ce matin, j'espérais passer cette merveilleuse journée en payant mon loyer, quel délire! En dormant sur le duvet d'une assurance dangereuse, la malchance, ananké en grec, a détruit mon espérance.
What's happening here?
No tequila. Save us, Moses.
Kiriwatch!
Et les amoureux du soleil au cœur. Car nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur.
Parfois le soir je prends un verre. Ça fait ressortir les meilleurs côtés de l'homme et ça aide à s'endormir. Plus jeune, j'ai vécu à Paris et j'ai mené la vie de bohème. Oh, j'ai écrit un peu, mais mon succès n'a été qu'artistique. Ça nous arrivait de boire beaucoup, quand on avait une raison de faire la fête. Tu ne dois pas comprendre de quoi je parle.
Non, monsieur.
Ne m'appelle pas monsieur.
Vous ne vous êtes pas présenté?
Tiens, tiens, tu viens d'une famille cultivée.
Mon père était professeur.
Je m'appelle Marcel Marx. Tu peux m'appeler Marcel?
Oui, mon général.
De la tequila des Leningrad Cowboys au petit ballon rouge de Marcel dans le Havre. Bonjour à vous, André Wilms.
Bonjour.
Marcel dans le Havre qui explique « Moi, le soir, je bois un verre, ça fait ressortir les meilleurs côtés de l'homme. » Vous partagez le même carburant?
Oui, je pense quand même à un verre de temps en temps. Même notre président de la République a dit qu'il buvait du vin, donc ça va. Non, mais... Ouais, il y a une espèce de tendresse dans là-dedans. Le verre, il est tendre avec vous. Et vous... Il vous rassure un peu, il vous caresse un petit peu, il pense les plaies. C'est comme une sorte de, oui, c'est un petit pansement, un pansement tendre. Bon alors, il ne faut pas exagérer, mais c'est un pansement.
Akikoris Maki, à qui la Cinémathèque de Toulouse consacre donc une rétrospective en ce moment, lui ne se dit pas cinéaste, mais checker de cocktails. Sa recette, 30% d'osu, 30% de sika, 15% de cirque, 20% de hopper et 10% de capra. Sacré mélange, ça lui correspond bien?
Oui, bah, il en invente hein, toutes les semaines comme ça, il invente une... Mais osu, oui. Osu, Bresson, c'est ses références. C'est-à-dire... Parce que comme il y a tellement d'images maintenant, c'est vrai qu'il y a une espèce de... On est dans un déluge d'images, surtout avec le numérique maintenant. C'est comme une espèce d'énorme tsunami d'images. Il est quand même un des rares qui fasse des images qui nettoient un peu comme l'eau de Javel nettoie les yeux. Ça nettoie un peu quand même. Ces images sont... Elles existent, elles peuvent résister dans le tsunami de maintenant. Et ça, c'est sa force, quoi.
C'est-à-dire qu'il fait des images qu'on voit encore.
Oui, c'est ça. Parce que quand même, maintenant, on ne voit plus rien, je veux dire. Enfin, moi, je ne vois plus rien. C'est-à-dire assez intéressant, ce matin, quand je suis arrivé ici, j'ai vu, il y a un énorme panneau sur Radio France, là, avec Léa Salamé et l'autre type, là.
Nicolas Demorand.
Oui, Nicolas Demorand.
Qui sont donc ses animateurs de la matinale
même
de France Inter.
Marlon Brando, il n'a pas ça. C'est-à-dire, alors après, ça te met de l'humour quand t'es acteur. C'est fini tout ça, tu vois. C'est comme quand j'ai vu les deux mecs qui interviewent le président de la République. Si tu veux jouer des types extrêmement prétentieux et satisfaits et pleins d'eux-mêmes, faut jouer comme nos deux intervieweurs du président de la République. C'est hallucinant ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils s'aiment.
Vous l'auriez joué comment, l'interview du président de la République?
Pas comme ça en tout cas, non, c'est trop quoi, ils en font tous trop. Et justement, chez Aki Kaurismäki, on retire. Less is more. On enlève. Et maintenant, on rajoute. Mais c'est hallucinant. Bon, après, c'est les vieux cons qui parlent comme ça. C'était mieux avant. Non. Mais...
Oui, mais vous êtes assez constant là-dessus, André Villiers.
Oui.
Il y a 20 ans, vous disiez déjà cette crainte du jouer faux, comme en musique. Cette peur que vous avez toujours eue d'être faussement intense.
Ouais.
De trop en faire.
C'est compliqué parce que avant, on comprenait quelque chose. On savait exactement pourquoi les gens voulaient avoir Brando et voulaient avoir Al Pacino après avoir eu John Wayne et Kirk Douglas. C'était les grands. L'Amérique était triomphante, c'était magnifique. Puis l'Amérique, il y a la guerre du Vietnam et on prend des jeunes cocaïnés, tout petits, nerveux et italo-américains. En France, c'était pareil. Donc, ça, tous les corps prolétariens ont disparu lentement. Tous les corps plébéiens ont disparu lentement et ont été remplacés par une sorte d'homogénéité petite bourgeoise. Ça y est, je pète les plombs. Mais non, c'est vrai. Et donc, auquel la grande masse petite bourgeoise peut s'identifier. Par exemple, c'est très étonnant. Avant, quand, si tu disais à ma mère que tu voulais être acteur, elle pensait soit que tu es homosexuel, soit si c'était une femme, c'était une pute. Et maintenant, toute la petite bourgeoisie est absolument ravie que leurs enfants fassent des trucs, soit acteurs, soit c'est déprimant.
Parce que ça les rend visibles, peut-être, aussi, dans une société, comme vous dites, qui marche à l'image et qui marche à l'idée de faire voir et donner à voir.
Ceci dit, c'est pas neuf, parce qu'Arthur Cravant, le surréaliste, il avait déjà dit « J'ose plus descendre dans la rue, il n'y a plus que des gens qui font de la culture dans la rue. » Bon, ben, c'est, voilà.
Aki Kaurismäki, c'est aussi le cinéaste qui sait imposer des silences. Qu'est-ce qu'il met dans chacun de ces silences? Quel mot ou quelle image, vous mettriez sur son cinéma, André Wilms?
Ouais, c'est-à-dire... Il dit toujours « play like old gentlemen ». C'est ça, c'est garder une certaine dignité, non, tenue.
Voilà. Élégance.
Tenue, élégance. Par exemple, il dit « si tu joues un prolo, il faut toujours que ton pantalon soit bien repassé, il faut qu'il y ait un pli, il faut se tenir droit ». Par exemple, il y a une toute petite anecdote, c'est quand je vois l'enfant dans l'eau et je lui ai dit « tu as faim ?» Il me dit « non, c'est pas bien, tu as faim. As-tu faim ?» C'est la reconquête du langage, bon, ça c'est ce qu'il aime bien. Reconquérir le langage, c'est reconquérir la dignité, dit-il. Bon, mais ça, il a raison.
Ça fait penser à un extrait de « C'était la vie de Bohème hein, », je crois.
Ouais.
Où dans cet échange, lundi, puis-je vous demander de partager ce plat avec moi? Et vous répondez, votre personnage, je ne veux pas vous enlever votre part, mon cher monsieur. Vous m'enlevez alors le plaisir de montrer mon amabilité, vous répond-il.
Ouais.
Tout ça, c'était dans La vie de Bohème, hein, en 92. Cette élégance, justement. Il y a du paradoxe aussi, beaucoup dans le cinéma d'Aki Kaurismäki. Vous avez, vous, souvent souligné la contradiction qu'il pouvait y avoir entre le langage et le corps des personnages que vous aviez à incarner. Comment ça se manifeste?
Ouais, parce qu'il y a aussi, il y a une chose qui est assez intéressante chez lui, c'est qu'il n'a, c'est pas trop politiquement correct. Les prolétaires, ils peuvent aussi taper leur femme et la quitter parce qu'elle boit trop, ou bien ils sont aussi des alcoolos. Ils sont pas seulement, c'est pas du cinéma militant. C'est-à-dire, c'est pas le cinéma culturel de gauche, dont on est envahi, le cinéma sociologique, qui nous, qui nous étouffe un petit peu. Il reste quand même dans l'art et pas dans la culture. Et surtout, il y a toujours un moment où il est de mauvaise foi, où il est de mauvaise humeur, où il n'est pas sympa. Et ça, c'est bien.
Vous étiez ensemble, tous les deux, à la Cinémathèque de Toulouse, vendredi soir, pour une rencontre avec le public, avant la projection de Jua, votre troisième film, ensemble. Alors lui, film, là encore, qui n'est pas très politiquement correct, justement, qui va à rebours des idées qu'on peut avoir. Film moins connu de lui. Faut dire aussi qu'il est sorti en 99, c'est-à-dire il y a déjà presque 20 ans. Rétrospectivement, comment lui parle-t-il de ses films, de son œuvre, de son parcours? Comment il le regarde?
Il en parle peu, parce qu'il en parle avec humour, mais par exemple, Oyura, ça a été un bide au niveau public, c'était apocalyptique, alors là, du coup, je pense qu'on a dû faire 1000 entrées à Paris, enfin. Non. En même temps, c'est un très beau film, et il voulait faire le dernier film muet du XXe siècle. Bon, après,
lequel vous avez appris le finnois, quand même, non?
Ouais, parce qu'il voulait que n'importe quoi, mais il voulait que mes lèvres correspondent à ce qu'on lisait sur les intertitres. Mais c'était assez juste, en plus. Parce que quand tu apprends le finnois, c'est une langue extraordinairement complexe, incompréhensible, qui n'a aucune racine normale. Et on comprend un peu pourquoi ils sont comme ça, les finnois. Ils sont très étranges. C'est des gens assez tristes, quoi. Assez tristes, mais avec de l'humour. Et ils s'accrochent à toutes les branches où ils peuvent se sauver un peu. Voilà. Mais vous me demandiez qu'est-ce qu'il dit de son cinéma.
Oui,
eh bien, il
n'en
dit pas grand-chose. Il fait toujours des astuces. Il est un peu comme les anciennes personnes de l'Allemagne de l'Est comme Heiner Müller ou des gens comme ça. Quand tu leur demandais quelque chose sur leur vision politique du monde, ils racontaient une blague. Et lui aussi, c'est un peu ça. Il s'en sort toujours par une blague. C'est les gens de l'Est, je pense. C'est les gens qui ont froid.
À la Dépêche, il dit « Je n'ai pas honte de mes films, mais je n'ai pas fait de chef-d'œuvre.
» Oui, mais il pourra dire, j'ai fait un seul chef-d'œuvre et tous les autres, c'est épouvantable. Il fait partie des gens que j'aime beaucoup parce qu'ils disent tout et son contraire en même temps. Et ça, c'est bien, c'est des personnages extrêmement riches. Parce que maintenant, il faut avoir une ligne absolue. Ben, non, les gens sont contradictoires, alors il peut dire des choses très contradictoires. Et c'est marrant, il est aussi génial que Godard en interview. Parce qu'il peut dire tout et son n'importe quoi. Et ça, c'est bien.
Mais au moins, il dit quelque chose.
Hein?
Au moins, il dit quelque chose.
Oui, parfois, oui. Mais Godard aussi, quand tu l'entends dans ses interviews, tu te dis, nom de Dieu, j'y ai pas pensé à ça.
Vous l'avez rencontré, vous, Godard?
Non, non. Il me fait trop peur. Là, je suis passé.
Son nouveau film présenté à Cannes cette année, ça va être l'événement, mais lui, probablement, ne pointera pas le bout de son nez.
Non.
Vous comprenez qu'il n'ait pas envie de se plier à ce cinéma-là?
Ouais, je crois, maintenant il a 80, je sais pas combien, il s'intéresse à son chien. Son chien, je sais pas, il est chrétien, son chien, je crois, et il en parle comme si c'était Sainte-Thérèse d'Avila, enfin. Non, c'est assez bizarre, mais pourquoi pas? Qu'on le laisse tranquille. Et je me souviens, en mai 68, on disait Godard le plus con des Suisses pro-chinois. Parce qu'on est en 60.
On est 50 ans après. Et quand on pose la question à Aki Kaurismäki, en tout cas quand le quotidien, la Dépêche, le quotidien du Sud, a demandé à Aki Kaurismäki quel film ou qui lui avait donné envie de faire du cinéma, il a répondu justement Godard. J'aime beaucoup Godard et la Nouvelle Vague, mais adolescent, il y a une soirée au ciné-club de mon village qui m'a marqué. J'adore le surréalisme. Un soir, je pensais aller voir un Buñuel, mais la programmation a changé et à la place, il y a eu deux films sur les Esquimaux. Le premier, j'ai rien compris, il était mal fichu, on ne voyait que de la glace. Le second, c'était le remarquable Nanook l'Esquimau de l'explorateur Robert Flaherty. J'ai trouvé que j'avais vu et vécu lors de cette séance mélangeant médiocrité et excellence, le summum du surréalisme, oui, c'est ça. Il ne cherche pas à nous éclairer, Aki Kaurismäki, il veille sur nos ténèbres. Ça, c'est ce qu'en dit la Cinémathèque de Toulouse dans la présentation de cette rétrospective. Alerté, mais pas dénoncé. On va écouter Aki Kaurismäki l'an passé.
Eikö se ole ilmiselvä, että haluan?
C'est évident que justement je veux alerter les gens avec ces images.
Minusta on kauheata, että ihmisiä tapetaan.
Pour moi c'est insupportable qu'on s'étourie, qu'on tue les gens et ça continue.
Perut.
Oui, c'est horrible.
Et lui, je me pète minutes.
L'humanité m'a trahi.
Aikoina olin toiveikas. Luulin, että olin tehtävissä. Mutta tästä sitä on ollutkaan.
Avant, j'ai quand même, j'avais de l'espoir. Je pensais qu'il y avait quelque chose à faire, mais voilà, on en est là.
Tristesse. Unika. Siis ainoa asia, mä olen luottanut mikrofoni.
La seule chose sur laquelle je fais confiance, c'est le microphone.
Mais le cinéma, vous continuez à faire confiance au cinéma, qui Korismäki?
Elokuva on kuollut.
Le cinéma est mort.
En lainkaan.
Pas du tout, j'ai pas confiance en cinéma, pas du tout.
Ja, jos ihan rehellisesti olen, en myöskään itseäni.
Et si je suis vraiment honnête, j'ai pas confiance en moi-même non plus.
Aki Korismäki avec Laura Adler l'an dernier, au moment de la diffusion, de la sortie en salle de son film « L'autre côté de l'espoir », film « Ours d'argent » du meilleur réalisateur à Berlin l'année dernière. Il a vraiment pas confiance en lui, Aki Korismäki.
Une fois de plus, il a extraordinairement confiance en lui et pas du tout. C'est-à-dire que dans la même journée, il peut avoir il a des idées géniales comme ça, puis tout d'un coup, il s'arrête et il sait plus rien. Et alors il dit, ben allons voir un coup et je reviendrai quand j'aurai une idée. Il est un des rares metteurs en scène que j'ai vu arrêter un tournage parce qu'il n'avait pas d'idée. Il dit, je ne sais pas quoi faire maintenant, on arrête. Et bon, c'est assez agréable parce que tu te dis, il n'y a pas que moi qui n'ai pas d'idée. C'est-à-dire, il quitte le rôle de Dieu le Père, le metteur en scène, et puis voilà, tout d'un coup, on a affaire à quelqu'un qui est comme vous, il a aussi peur que vous, il est aussi maladroit que vous, il a aussi des difficultés comme vous. En même temps, il est très bon, hein, je veux dire, il sait aussi, il a une vraie écriture. Je sais que la nouvelle vague, on disait toujours la caméra est un stylo. Il a une vraie écriture, il a une véritable science de l'image. Quand même, ça, il faut lui reconnaître. Et il a une rigueur absolument incroyable. C'est toujours très marrant parce que quand on commence, et je suis assis à une table, il y a une bouteille d'eau, il y a un cendrier, il y a des couverts, un truc, puis il enlève progressivement tout. Puis à la fin du plan, il y a juste encore une bouteille d'eau. C'est tout. Voilà. Il enlève toujours beaucoup, beaucoup. Et dans ses plans, il enlève beaucoup. Ça, c'est pas mal. Parce que les gens ont tendance à en mettre, lui, il enlève. Et ça, c'est bien.
Une solidarité pudique, voilà ce qu'on dit souvent de lui et de ses films, Aki Korismäki. Là, on l'entend un peu désabusé dans cet extrait. Mais régulièrement, il redonne des signes de continuité ou de continuation. Il a envie de continuer, il a envie d'en refaire encore un. En tout cas, il n'a peut-être pas tout dit. Et pour vous, André Wilms, est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté de l'espoir?
Ouais, non, tout à fait. Parce que souvent, on a tous tendance à trouver qu'on vit dans une période apocalyptique, que c'est une catastrophe. Mais par exemple, là, je travaille avec Garel, Philippe Garel. Et ben, je suis vraiment heureux parce que il reste un garçon qui fait des films incroyables. Il a une façon de parler, de travailler qui sont formidables. Il continue. Alors lui aussi, il a des tristesses, il a des moments où il n'en peut plus. Mais je trouve que c'est magnifique que Philippe Garrel fasse encore des films. Et je trouve que c'est magnifique que Korismäki fasse encore des films. C'est donc, tout n'est pas perdu, quoi.
Mais parce que Philippe Garrel est aussi un cinéaste éternellement amoureux.
Ouais, ouais.
C'est quelqu'un que le désir, l'amour, la relation à l'autre maintient, ou là, son carburant...
Particulièrement aux femmes.
Peut-être.
Oui, non. Non, mais c'est vrai qu'il a encore des... Ouais, il a quelque chose à dire, quoi, encore. Et c'était tout à fait étonnant la façon dont il travaille. Tout à fait passionnant. Et ça me réchauffe.
Dans Le Havre, Marcel Marx, le poète de la vie de Bohème, revient. Mais les temps ont changé. C'est un peu la fable de la cigale et de la fourmi qui est passée par là. Il n'est plus poète, il est cireur de chaussures. Ouais. C'est un Marcel déclassé qu'on retrouve dans Le Havre, film sorti en 2011. Il cire des pompes pour gagner sa croûte. Vous avez souvent dit que c'était d'ailleurs une métaphore du métier d'acteur. Qu'est-ce qui reste à vos yeux, André Wilms, quand on a le sentiment d'avoir tout perdu? Cette dignité du cireur de chaussures?
Oui, essayer de se tenir droit, essayer de bien cirer les godasses. Parler peu, mais parler juste. S'intéresser à un enfant qui veut partir en Angleterre. Des petites choses, mais pas... voilà, c'est juste... Peut-être pleurer une fois de l'œil gauche. Une larme qui coule, c'est pas mal, parfois. Et voilà, ça doit rester. Après, politiquement, ce qui se passe en ce moment, ça, je ne sais pas. Je laisserai votre prochain invité en décider.
Ben justement, Régis Debray, dans son livre Bilan de faillite, qui nous rejoindra pour la deuxième partie de la Grande Table, dit à son fils de 16 ans, je te souhaite de croire en quelque chose et pas seulement d'accumuler des connaissances. On ne sort des clous qu'avec un indémontrable chevillé au corps, et si tu veux pouvoir aller jusqu'au bout de toi-même, préserve en toi la part du feu, je veux dire d'une foi, d'une ferveur, d'un élan. C'est le combustible dont nous avons besoin pour quitter l'ordinaire en toute irresponsabilité. Je trouve que ces mots vous habillaient pas trop mal, André Wilms.
Non, c'est très beau. D'ailleurs, c'est vrai qu'une génération qui croirait plus en rien, ou une génération qui dirait ouais, il n'y a pas d'espoir, ou il n'y a pas de lendemain qui pourrait chanter, même, c'est une génération épouvantable. Je veux dire, si les gens croient plus en rien, là on est mal barré. On a déjà tué Dieu, on a tué Marx, on a tué machin. Si on tue tout le monde, alors là, on va être mal. Hein.
Donc il faut garder, il faut continuer à croire en quelque chose.
Ouais, quand même. Oui, quand même un petit peu, continuer à croire en. Très peu de choses, mais des belles... Oui, enfin, il faut faire attention aussi à ça. Il faut continuer la lutte. C'est difficile, parce que quand on est vieux, on est fatigué. Et je crois que la lutte, c'est quand même une histoire de jeunes gens. La lutte, c'est les jeunes. La moyenne d'âge de la résistance française, c'était 24 ans. La moyenne d'âge des maréchaux de Napoléon, c'était 25-26 ans. Là, tu peux y aller. Après, à mon âge, c'est un peu difficile. Hein. Ou alors on fait des panthères grises, ou je ne sais pas quoi. Mais bon, laissons les jeunes gens se révolter.
Mais votre mère, elle avait un goût certain pour l'ordre. C'est la moitié de la vie, vous disait-elle. Vous étiez plutôt vous, prédisposé visiblement au désordre. Aujourd'hui, cette bonne éducation, elle vous a rattrapé ou pas? L'ordre, c'est aussi ce que vous transmetteriez à vos enfants?
L'histoire de l'ordre, c'est un truc compliqué. Moi, je suis né en Alsace. Alors, d'un côté... L'érotique était du côté de la France et l'ordre était du côté de l'Allemagne. Et donc j'étais aussi tout le temps divisé entre olé olé français, et quand même il faut des choses un peu disciplinées, il faut un peu de discipline. Je pense qu'il faut quand même... Oui, après c'est toujours le même truc, les enfants rois et tout ça, j'en ai marre. Je ne supporte plus de voir des dessins d'enfants sur les frigidaires, par exemple. Ça me met hors de moi. Toutes les mères qui affichent leurs dessins d'enfants sur les frigidaires, ça me rend très nerveux. Je ne sais pas pourquoi, mais que tout le monde est... Ouais. Alors, je préfère que les enfants se tiennent à carreau. Mais c'est horrible, j'ose pas dire ça, parce que maintenant, tu te fais engueuler quand tu dis ça. Mais... Ne devenons pas comme les femmes de Berlin avec leurs enfants, quoi. Qui t'écrasent, qui te... Luttons. Non, c'est gentil, quoi.
Il est midi 25 sur France Culture. Notre invité, c'est André Wilms, à l'occasion de la rétrospective que la Cinémathèque de Toulouse consacre à son ami le cinéaste Aki Korismaki.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Formé par la critique, l'acteur Jean-Pierre Léo, palme d'or de l'avant-dernier festival... de l'avant-dernier festival de Cannes, il était votre partenaire dans la vie de Bohème en 92. Et justement, il racontait que lui, c'est le cinéma critique qui l'a d'abord formé. Vous êtes d'une toute autre école de cinéma. Ceux que vous admirez, Keaton, Fassbinder, Robert Mitchum, que ce soit des réalisateurs ou des comédiens, vous ont appris à pratiquer artisanat, parce qu'on ne va pas dire art, sinon vous allez me rentrer dedans,
non,
autrement.
Non, je ne rentre pas dedans, mais... Non, mais des gens comme Mitchum, ils ont de l'humour par rapport au métier. Quand on lui demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, je dis je fais un métier de gonzesse. Faisait des trucs marrants, quoi. Ils ont de l'humour par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et Keaton, il ne discute pas, il fait des cabrioles, il tombe, il se blesse et il est comique. Ça suffit. J'aime pas trop tout le côté... psycho, machin, autour de ce métier, quoi. J'aime bien Mitchum, voilà, il dit, ce que j'adore, c'est tourner un western, parce que on termine à l'heure, les chevaux n'ont pas trop de texte, je peux descendre de mon cheval à 6 heures et je vais manger à la cantine. J'aime bien ça. Alors qu'en fait, c'était un type extraordinairement complexe, qui a écrit un opéra sur Auschwitz. C'est un type très, très... Mais il n'a jamais fait de littérature autour de ce métier, qui quand même, il faut le ramener à sa juste... Sa juste dimension, c'est quand même que du... C'est pas que, mais c'est un métier qui n'est pas non plus... Tu n'as pas pris Nobel de médecine, quoi. Tu sauves pas un type parce que tu l'opères avec un cerveau ouvert. Donc on reste tranquille, on se calme, et puis voilà.
Mais il ne faut pas faire forcément des grands discours, on n'est pas
non, c'est
une
difficile.
Perte de sens artistique qui nécessiterait de formuler ça dans des grandes phrases.
Le problème, c'est que là aussi, il y a une accumulation d'interviews d'acteurs, et tu te dis, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on peut encore dire qui soit pas... qu'il soit un peu intéressant ou un peu vert et pas déjà passé, pas blette.
Et alors aujourd'hui, si on vous posait la question qu'est-ce que le théâtre ou à quoi sert le théâtre, vous répondriez quoi, André Wilms?
Comme les derniers chrétiens, quoi. C'est-à-dire on est dans des trous, mais il y a encore 3-4 personnes que ça peut intéresser. Plus, je ne crois pas, mais les 3-4 personnes, c'est pas mal. C'est tout. Après, voilà. C'est pas mal, on nous lâche les lions dessus, et comme les derniers chrétiens, on mourra avec grande dette, ça, quoi. Mais on est condamné au sous-sol.
Vous êtes devenu comédien parce que vous aimiez les collectifs, les troupes, être en groupe. Maintenant, vous vivez complètement retiré, ou presque, à la pointe du rat.
Oui.
C'est ce boulot qui vous a rendu...
C'est l'âge. Hein. L'âge n'améliore jamais rien. Hein. L'âge... On devient de plus en plus con, on devient de plus en plus réac, on devient de plus en plus épouvantable. L'âge n'arrange rien. Et donc, c'est l'âge qui m'a fait que, bon, je m'énerve un peu moins sur Bertolt Brecht et sur ses disciples. Et je préfère regarder la mer parce qu'on voit loin. Non, mais c'est l'âge. Hein. C'est pas un bon coup, l'âge. C'est très mauvais.
Vous savez, comme personne, imiter les animateurs de France Culture. Alors moi, je vais juste conclure en disant qu'on pourra vous entendre. Je pense que ce sera à la rentrée dans cette fiction enregistrée en public, cette lecture, La grille du Japon de Fabrice Melchior avec notamment Charlotte Rampling au Théâtre de la Ville.
Oui.
Je peux aussi rapidement vous dire que jusqu'au 31 mai, la Cinémathèque de Toulouse propose donc une rétrospective complète de l'œuvre d'Aki Korismaki et que notamment le mercredi 9 mai à 21h, on pourra y voir les Leningrad Cowboys rencontre Moïse. Je pense que c'est un film que tout le monde n'a pas vu et qu'on peut encore aller voir donc à Toulouse.
Personne n'a vu.
Non. Dans le cadre de cette rétrospective. Et pareil pour tous les films. Comment vous pouvez annoncer la suite de l'émission avec une voix France Culture, André Wilms?
Il va y avoir quoi?
Vous savez, il y a Régis Debray.
Ah oui. Non, attention. Parmi les nouveaux philosophes, Régis Debray va pas tarder à nous éclairer de ses lumières magnifiques. Alors, il paraît qu'il veut des frontières de nouveau, Régis Debray. C'est vrai. Hein. Il a écrit un livre sur les frontières. Eh bien, attendons Régis Debray. Expliquons-nous avec lui.
On n'est pas aussi baroque, hein, nous,
vous sur France
Culture. Non. Merci mille fois à vous, André. Vous restez avec nous si vous le souhaitez pour la deuxième partie de l'émission. Un dialogue entre Régis Debray et vous, ça pourrait être pas mal. Il est midi et demi sur France Culture.